Joseph.
Et on a vu quelques affinités ou des titres les plus importants que Joseph il avait avec notre Seigneur et Sauveur. Et alors, comme je vous ai dit la semaine dernière, je me suis mis à étudier la vie de Joseph et il m'a apporté beaucoup de bénédictions. Donc, je vais partager ces études que j'ai faites en Joseph et pendant plusieurs dimanches. Hein, on va étudier Joseph. Qui c'était Joseph? Ce n'est pas le père à Jésus, hein? Dans Genèse. Combien connaissent qui c'est Joseph? Pas beaucoup qui lèvent la main. Heureusement, je ne vous ai pas dit, ceux qui lèvent la main, je donne 500 euros. Joseph. Ouvrez vos Bibles, chapitre 37. Vous allez connaître qui c'est Joseph et pourquoi Joseph, c'est un personnage et auquel la Bible, l'Ancien Testament, il donne 6 ou 7 chapitres. Hein, parce qu'on l'a vu la semaine dernière. Hein, Joseph, il avait été nommé par Pharaon le sauveur du monde. C'est-à-dire de l'Égypte à cette époque-là, parce qu'il y avait eu 7 années de famine, hein, pour ceux qui lisent la Genèse. Hein. Et les pharaons, ils l'avaient nommé à la tête de l'Égypte. Alors, il y avait la famine, et tous ceux qui avaient besoin de grains, de pain, ils allaient voir Joseph. Et voilà pourquoi tous, ils convergeaient vers l'Égypte. Et on a vu la semaine dernière que Joseph, c'était le sauveur de ce monde-là, et Jésus-Christ, il est le sauveur de ce monde, en donnant le pain, qui lui-même est le pain. 37, on va lire le verset 1 à 4. Alors, 37, 1 à 4. Jacob demeura dans le pays de Canaan où avait séjourné son père. Voilà. Jacob, c'est le fils à qui? Ne répondez pas tous ensemble, sinon il va y avoir un puits terrible. Hein? Hein? Jacob, c'était le... Oui, Joseph était le fils de Jacob. Et Jacob était le fils d'Isaac. Le fils de... Abraham. Hein? Donc voilà, et il vivait dans le pays de Canaan. C'était quoi le pays de Canaan? C'était le pays que Dieu il avait promis à Abraham. Hein? C'est l'Israël d'aujourd'hui. Hein? Alors, verset 2. Voici la postérité de Jacob. Joseph, âgé de 17 ans, faisait paître les troupeaux avec ses frères. Et cet enfant était auprès des fils de Bila et de Zilpa, femmes de son père. Hein? Il avait 3 femmes. Hein? 3 femmes. Il avait une seule femme, 2 femmes, et les autres étaient des esclaves, des servantes de leur femme. Et Joseph rapportait à leur père leurs mauvais propos. Israël aimait Joseph plus que tous les autres parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse. Il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Ses frères virent que leur père l'aimait plus que tous et ils le prirent en haine. Ils ne pouvaient lui parler avec amitié. Voilà ces 4 versets. Ces 4 versets, ils nous montrent qui est-il Joseph. Joseph, c'est le fils de Jacob. C'était le fils à Rachel, la femme que Jacob il a toujours aimée. Lorsqu'il est arrivé chez Laban, hein, son oncle, hein, il est arrivé là, il a vu Rachel et il s'est tombé amoureux de Rachel. Et alors, il a dit, donne-moi Rachel. Épouse. Hein? Mais Rachel, elle n'était pas l'aînée. Et alors Laban, elle a dit, bon, écoute, tu travailles 7 ans, et ensuite je vais te donner Rachel. Et il a passé 7 ans, tout content, il a dit, je vais me marier. Les noces y sont organisées, mais Laban, au lieu de voiler Rachel, il a voilé sa fille aînée, Léa. Alors à cette époque-là, les femmes, elles avaient un voile. Donc les maris, ils ne la voyaient pas. Hein. Et Jacob ne l'a pas vue. Et ça l'est aperçu le lendemain. Ils ont passé la nuit ensemble. Il ne l'a pas vue. C'était la nuit. Ça faisait nuit. Hein. Voilà. Et le lendemain, oui, pourquoi tu m'as fait ça et tout. Je t'avais demandé Rachel. Et il a dit, là-bas, il a dit, écoute, tu travailles encore 7 ans. Et je te donnerai Rachel. 14 ans pour avoir une femme. Qui l'aurait fait de nous aujourd'hui? Hein? Jacob aimait Rachel. Hein, mais la suite, on le remonte. Rachel, elle était stérile. Hein? Et en certains moments, toutes ces choses, on va le voir dans la vie de Jacob, de Joseph. Hein? Mais c'est très, très bon de voir ça. Hein? Dieu nous apprend beaucoup de choses. Hein? Rachel, sa, l'autre épouse, il lui donnait des enfants. Et en certains moments, il lui a donné sa servante. Et les enfants, ils sont arrivés. Et donc, elle était stérile. Elle-même, elle a été auprès de son mari. Il m'a dit, donne-moi des enfants. Et Jacob, il a dit, mais suis-je Dieu pour te donner des enfants? Mais Dieu, il s'est souvenu de la stérilité de Jacob. Voilà pourquoi la semaine dernière, on a vu que le point entre Jésus et Jacob, c'est que leur naissance, c'était miraculeuse. On l'a vu la semaine dernière, n'est-ce pas? Combien d'enfants il a eu Jacob? 12. Jacob, combien d'enfants a eu? Il n'a pas eu 2. 12. Tout le monde dit 12. Bon, il a eu 13. Pourquoi 13? Parce qu'il y avait une fille dedans. Voilà. Hein? À cette époque-là, il comptait que les hommes. C'est ça. Mais revenons à Joseph. Joseph, il nous dit ici qu'il avait 17 ans. Hein? Donc, il était petit en âge. Il était berger. Il était aussi, il n'était rien, c'était un jeune homme. Et il était haï par ses frères. Et ici, le Seigneur, il nous montre 3 qualités que le Seigneur aime voir parmi ses enfants. Premièrement, être petit. Deuxièmement, être méprisé. Et troisièmement, être rien. Mais pouvoir tout faire avec le Seigneur. Donc c'est un peu comme vous voulez, c'est être et affirmer. C'est-à-dire un peu comme il a fait Jean-Baptiste. Vous vous souvenez ce qu'il a dit Jean-Baptiste? Il a dit, il faut que Jésus, il croisse et que moi, je diminue. C'est l'humilité. L'humilité. Et c'est que le Seigneur, il nous demande cela. Être humble. Hein, comme il a dit les frères, tout ce que nous avons vient de Dieu. Ah, j'ai ça. Tu n'as rien du tout. Tout appartient à Dieu, l'humilité. Mais il y a autre chose que le Seigneur, il aime. Et c'est aussi ce qu'il nous a dit à propos de Jésus. Il dit, le Fils de l'homme est venu, comment il est venu? Dans l'humilité, mais il est venu pour servir. L'humilité et le service. Voilà encore notre problème. Problème de chaque enfant de Dieu. Vous voyez combien de problèmes on a. Dans ce petit verset, juste au verset 2, qu'est-ce que c'est qu'un enfant de Dieu doit faire? Il doit être petit à ses propres yeux. Il doit se considérer à rien du tout. Et il doit être aussi haï, méprisé. Vous vous souvenez ce qu'il nous a dit dans Ésaïe? Il a été méprisé pour nos péchés. On doit porter l'opprobre de Jésus-Christ. Vous voyez juste dans ce verset 2, combien de choses le Seigneur nous montre que nous devons manifester. Et toutes ces choses-là, malgré qu'on se considère petit, méprisé, qu'on doit être humble et que nous devons servir, le Seigneur est avec nous. Bien sûr, à nous-mêmes, nous ne pouvons pas faire ces choses. Mais le Seigneur, il nous dit, confie-toi à moi. Fais-moi confiance. Et tu vas voir que moi, en tant que Dieu, je suis celui qui élève et celui qui abaisse. Autre chose qu'on va voir à travers Joseph, il a passé une vie atroce, une vie de souffrance. Mais pourquoi Dieu l'a fait passer par là? Pour ensuite l'élever. Et il l'a élevé jusqu'à être le vice-pharaon. C'est ça que le Seigneur il désire de chacun de nous. Vous savez que nous avons un avenir terrible. Nous n'avons pas besoin qu'on nous lise notre avenir, ce qui va nous arriver. J'ai marqué ici 3 versets à propos de notre avenir. Ce que Dieu, il dit, ce que Dieu, il nous propose pour l'avenir de tous les enfants qui lui ont fait confiance. Par exemple, dans Jérémie 15, verset 11, l'Éternel dit, certes, tu auras un avenir heureux. Un avenir heureux. Comment il est votre avenir aujourd'hui? Comment est-ce que vous voyez votre avenir? Comment est-ce que nous le voyons? Sachez que Dieu, qu'il est omniscient, il voit toutes choses, il voit notre avenir heureux. Il y a aussi un autre verset dans Jérémie 29. Il dit, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, sur nous. Il connaît le Seigneur. Il connaît tout, dit l'Éternel. Projet de paix et non de malheur. Afin de vous donner un avenir et de l'espérance. C'est ça que le Seigneur a en réserve pour chacun de nous. Et en Joseph, c'est ce qu'il avait en réserve. Et pour chacun de nous, et en troisième verset, dans 1 Timothée 6, 19, pour s'amasser pour l'avenir un trésor placé sur un fondement solide. Le fondement, c'est Jésus-Christ. Un trésor, pas un compte en banque de 10 000 euros, un trésor. Voilà pourquoi nous devons faire confiance à Dieu. Voilà pourquoi nous devons tout faire pour qu'il puisse être heureux de chacun de nous. Que nous n'ayons pas honte de nous présenter devant lui. Avez-vous jamais réfléchi? Quel sera votre état lorsque vous serez devant le Seigneur? Vous serez dans la joie ou vous serez un peu dans la honte parce que vous savez que vous n'avez pas accompli la volonté de Dieu. C'est ça. Et continuons avec Joseph. C'était un homme qui, un jeune homme, et nous a dit que il était le préféré de son père. Le préféré de son père. Et là encore, on l'a vu la semaine dernière, Joseph, c'est le type de Jésus-Christ qui était le préféré de tous les enfants. On l'a vu la semaine dernière, pour ceux qui participent aux études les dimanches, qu'il était le premier né, le fils unique, le premier né d'entre tous les frères. Donc, Joseph, il était le préféré des enfants, des autres enfants, et il était le bien-aimé du Père. Et ça, c'est encore, nous devons nous mettre dans notre petite tête que nous pouvons être aussi les bien-aimés de Dieu. Aujourd'hui, si on n'a pas Jésus-Christ, on n'est pas les bien-aimés de Dieu. Mais on est sous la colère de Dieu à cause de nos péchés. Mais dans Galates, je crois que c'est dans Galates, non, Éphésiens 1:6, il nous est dit, sa grâce, hein, que notre frère il nous a élevé, la grâce de Dieu, et on l'a chanté, il dit, sa grâce dans laquelle il nous a rendus agréables, dans les bien-aimés. Et ça nous arrive, on entend des frères et sœurs des fois qu'ils disent, mes bien-aimés de Dieu, nous sommes les bien-aimés. Joseph, il était le bien-aimé, le préféré. C'est pas que Joseph, il n'aimait pas, Jacob, il n'aimait pas les autres. Mais pour Joseph, il avait quelque chose de plus. Premièrement, parce qu'il venait de la femme qu'il aimait. Mais aussi, c'est par rapport à ce que Joseph faisait pour Jacob. Hein, comme je vous ai dit toujours, et on va le voir dans la suite, plus on est près de Jésus, plus on est près du Seigneur, et plus le Seigneur il nous parle, plus le Seigneur il nous donne des choses à faire, et plus le Seigneur il nous récompense. Voilà. Il nous a dit, Jean, l'apôtre que Jésus aimait, c'est lui qui posait sa tête sur la poitrine de Jésus. C'est celui que Jésus aimait. Est-ce que Jésus, il aimait plus que les autres apôtres? Non, c'est Jean qui aimait Jésus à un point que le Seigneur, il était auprès de lui, plus que les autres. Mais les autres, ils étaient auprès du Seigneur aussi. Et ici, il nous est dit les bien-aimés. Nous pouvons être les bien-aimés du Père, mais toujours par et à travers Jésus-Christ, pas pour un autre moyen. Hein? Les raisons pour lesquelles Joseph, il était le bien-aimé, il y a quatre raisons. La première, c'est l'ordre prophétique. C'est-à-dire que Joseph, il était destiné par Dieu à manifester à travers sa vie la plénitude de ce qu'il serait la vie de Jésus-Christ. Et ça, encore, c'est quelque chose que le Seigneur désire dans la vie de chacun de nous. Il nous est dit dans Éphésiens que jusqu'à être la race, à arriver à la rassemblance de Jésus-Christ. Le Seigneur, il nous fortifie, il nous dirige, il nous instruit pour que nous puissions manifester ici-bas sur cette terre la personne de Jésus-Christ. Comme Jésus, il a vécu, nous devons vivre. Un peu comme Antioche. Hein? Dans les livres des Actes, les gens, en voyant les apôtres, ils les ont appelés les chrétiens, hein, ceux qui portent Christ, les porteurs de Jésus-Christ, à travers leurs paroles, leurs actes, leur agissement. Ils voyaient Jésus-Christ, ils voyaient la bonté de Dieu. Et ça, c'est quelque chose que nous n'arrivons pas à manifester en tant que chrétiens. Nous nous comportons beaucoup de temps comme le monde. Le monde aujourd'hui, à un point qu'il est même rentré dans l'Église. Et on voit tout ça, et par l'habillement, et par notre façon de parler. Des fois, on prononce des mots, hein, Paul même leur dit qu'on ne doit pas même pas prononcer dans la bouche d'un chrétien. Des fois, on l'entend. Paul nous l'a dit dans Corinthe. Hein, il a dit, qu'il y a des chrétiens qui portaient plainte contre des frères, c'est-à-dire ils amenaient des frères et des sœurs en jugement. Et alors Paul lui disait, mais ne savez-vous pas que nous devons juger le monde? Et vous allez vers le monde pour que vos frères et sœurs ils soient jugés. Voilà pourquoi c'est un ordre prophétique. À travers Joseph, nous devons manifester Jésus-Christ. Et Joseph, il est passé par tout ce cheminement parce que Dieu, il avait un plan pour Joseph, que Joseph ne connaissait pas. Et pourtant, on va voir dans sa vie, il est passé par des moments très difficiles. Le deuxième, c'était parce que Joseph, il était seul, il était le seul à s'ouvrir à son père. Déjà par son âge, c'était le tout dernier, il avait 17 ans et il était constamment auprès du père. Il prenait soin du père et il manifestait de l'amour au père. Tandis que les autres, ils étaient déjà très âgé, il voyait dans l'âge de Joseph quelqu'un de sénile et ne faisait même pas attention. Et là encore, on voit la manifestation du caractère de Jésus-Christ. Il était quelqu'un qu'il était constamment auprès du Père, que dans sa tête, il n'y avait qu'une seule chose, il y avait le Père. Ce que je vous dis, ce n'est pas moi qui vous le dis, mais c'est le Père qui me dit de vous le dire. Je ne fais pas ma volonté, mais j'ai fait la volonté du Père. D'ailleurs, pourquoi ses frères, ils portaient une haine envers Jacob? Parce que Jacob, il rapportait ce que ses frères, ils faisaient. Un chrétien, il a fait une étude biblique ici, hein. Après, bon, je l'ai repris, on l'a repris hein, avec Bob. Hein. Il a dit, Joseph, il mouchardait. Voilà. Hein? Il parle à la façon. Hein? C'est vrai que Joseph, il disait à son père, lorsque ses frères, ils faisaient quelque chose de mal. Et pas faire comme il avait fait Élie. Les souverains sacrificateurs dans 1 Samuel chapitre 2. Il était souverain sacrificateur, il était âgé, et qui c'est qui le remplaçait? C'est ses deux fils. Ils étaient souverains sacrificateurs. Mais ces deux fils, ils n'obéissaient à la parole de Dieu. Les sacrifices qu'ils faisaient, ils devaient prendre seulement la partie qui leur revenait. Mais lorsqu'il y avait des offrandes, ils enfonçaient ça dans une grande poêle. Toute la viande, il était là pour cuire. Eux, ils disaient, je prends la part du souverain sacrificateur. Et ils avaient une fourche comme ça. Ils enfonçaient, ce qui sortait, c'était pour eux. Voilà. Et Élie, il savait ces choses-là, et il ne faisait rien. Et il ne disait rien. Lui, il rapportait à son père. Voilà, il a mal fait, il a fait ça, il a fait ça. Pourquoi? Parce qu'en faisant ça, ses frères, ils agissaient différemment. Il a dit, tiens, attention, il y a Joseph. Hein. Calmons-nous. Hein. Voilà, c'est pour ça aussi, c'était les seuls à s'ouvrir à son père. C'était les seuls qui étaient auprès du père. Autre caractéristique, c'est qu'il était en parfaite communion avec son père. En parfaite communion. Et là encore, il nous parle de Jésus-Christ. Qu'il n'a jamais, cette communion que Jésus, il avait avec le Père. Il n'a jamais été cassé. Il ne s'est jamais arrêté. Mais il y a eu un moment sur la croix de Golgotha. C'est à ce moment-là que Jésus, il s'est aperçu que sa communion avec son Père, elle était cassée. Voilà pourquoi il y a eu ces mots qu'on connaît tous, que Jésus s'est écrié, « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Mais Dieu, le Père, il ne pouvait rien faire. Pourquoi ? Parce que sur le dos de Jésus, sur la croix de Jésus, il y avait tous nos péchés. Et le seul moyen de que nos péchés soient pardonnés, c'était la mort. C'était les sacrifices, car le salaire du péché, c'est la mort. Et Joseph, c'était, il avait cette communion avec le Père, constamment auprès du Père. C'est quelque chose que nous devons manifester. Et s'il nous arrive, et il nous arrive, de tomber dans les péchés, nous devons tout de suite, car si nous gardons notre péché au plus profond de nous, alors cette communion, elle est coupée. Et qu'est-ce que c'est qu'on va en retirer? Que des déboires, un manque de bénédiction que le Seigneur, il veut donner à tous ceux qui ont cette communion avec lui. Et quatrièmement, Joseph, il était obéissant. Parce que Joseph, il savait que ses frères, il le haïssait. Il était tranquillement dans la terre de Canaan. Bien sûr, ses frères, beaucoup plus âgés, ils prenaient les troupeaux et ils les amenaient à chercher de la verdure, de la nourriture. Et des fois, ils allaient très loin. Lui, il avait 17 ans, donc il restait auprès du père. Hein? Et il a dit, va, on va le voir par la suite, hein? Il a dit, va demander des nouvelles de tes frères qui se trouvent à tel endroit. Il aurait pu dire, oui, mais mes frères, ils me haïssent, ils ne peuvent pas me voir, je suis jeune, je veux me perdre. Non, il a dit la même chose qu'il a dit Jésus. Lorsque le Seigneur, l'Éternel, il a dit, je veux les sauver, mais qui enverrai-je? Et la réponse de Jésus, me voici. Samuel, il appelle, Samuel, Samuel. Qu'est-ce qu'il a répondu? Me voici, Seigneur. Et Joseph, il a répondu pareillement. Pourquoi? Parce que Joseph, il était obéissant. Et comme notre frère nous l'a dit tout à l'heure, n'est-ce pas? Le Seigneur, il ne désire pas des sacrifices. Et on le lit dans Samuel aussi. Hein? Il nous le dit, le Seigneur, il ne désire pas des sacrifices, des observances du sabbat, des observances parce qu'on prie. Et tout. C'est ce que le Seigneur, il nous demande, c'est d'obéir. D'obéir. Il nous a dit qu'il nous a fait connaître sa volonté. Et le Seigneur, il demande l'obéissance. Et pas faire comme on dit, on fait aujourd'hui. Oui, mais peut-être que le Seigneur, il n'a pas voulu dire ça. Non, le Seigneur, s'il a dit ça, c'est parce qu'il voulait dire ça. Ce n'est pas à nous de s'imaginer que le Seigneur, il aurait pu dire autre chose. Car ce que nous observons dans la Bible, c'est une Bible littéralement. Si le Seigneur il dit que c'est vert, c'est vert. Si le Seigneur il parle des 1000 ans, c'est 1000 ans, pas un certain temps. C'est ça. C'est un peu comme le sketch de Fernand Reynaud, vous en souvenez? Il a dit combien de temps il met à faire cette distance. Il a dit oui, un an, une minute, 10 minutes. Et lui, il a répondu, il dit un certain temps. Lorsque le Seigneur, il dit quelque chose, c'est ça. Et ce n'est pas à nous de changer la signification. Pourquoi? Parce que la Bible, nous, on l'observe littéralement. Et le Seigneur, il a dit, oui, mais je suis disciple du Seigneur, moi, j'ai fait ça. Le Seigneur, il a dit, mon disciple, c'est celui qui connaît, mais qui met en pratique. C'est-à-dire qui obéit. Voilà ce que Joseph, il a manifesté. Hein? Et nous devons la manifester, nous aussi. Nous être le fils bien-aimé, et pour cela, nous avons Jésus-Christ. Être en communion avec notre Dieu Tout-Puissant, être aussi, avoir un cœur ouvert à ce que le Seigneur nous dit, et surtout être obéissant. Être obéissant. Hein? Et il nous est dit aussi que Joseph, il était le bien-aimé. Pourquoi? Parce que Joseph, il était la conscience des frères. La conscience des frères. Ses frères, lorsqu'ils voyaient Joseph, ils faisaient attention à ce qu'ils faisaient. La conscience. Ils savaient qu'ils faisaient mal. Plus loin, on va le voir, lorsqu'ils ont décidé de tuer Joseph. À un certain moment, il y a eu le grand Reuben, il a dit, mais il est cher de notre chair, nous ne devons pas le faire. Voilà, il les a, en l'amenant à les tuer, avoir cette pensée, Reuben, il a, la conscience de Reuben, il s'est mis à tourmailler dans lui, et il a dit, mais nous faisons mal, mes frères. Il a essayé de convaincre les frères, mais il n'est pas arrivé. Situation. Donc, il était l'inconscience, la conscience. Et vous savez, Jésus et le Père, il nous l'a dit Jésus, moi et le Père, nous sommes un. Et Jésus nous l'a dit lorsqu'il était ici-bas sur cette terre, je suis venu à détruire les œuvres du diable. Ah, nous aimons Abraham. Si vous aimez Abraham, vous m'aimeriez aussi. C'était pour leur montrer qu'ils étaient dans l'erreur. Et c'est ça que nous devons... Ça nous arrive même dans notre travail. J'ai entendu des témoignages des chrétiens dans leur travail. Lorsqu'ils vont, naturellement, ils étaient avec d'autres gens qui travaillent. Et alors, dans la discussion, où il disait des gros mots, où il racontait des choses qui... Et alors, cette personne, il a dit, écoutez, je continue à rester avec vous, mais modérez-vous dans le parler. Ne continuez pas à dire des gros mots. Ne continuez pas à maudire ou à dire du mal de ça. Moi, je n'aime pas. Sinon, je m'en vais. C'est ça. Ne pas participer aux œuvres du diable. Combien il y a des chrétiens, des comptables, ou qui travaillent dans les bureaux, le patron lui dit, fais ça et ça, comme ça on ne paye pas d'impôts, fais ça et ça, comme ça, voilà. Et il y a des chrétiens qui continuent, qui le font, parce qu'il y a une peur derrière. Mais en tant que chrétiens, nous devons nous rébeller à cela. Nous devons nous révéler à cela. Et Joseph, il était un avec le Père. Donc, automatiquement, il lui racontait tout. Ce que Joseph, il entendait, le Père, il devait le savoir. Ce que Joseph, il voyait à ses frères, il devait le raconter. Pourquoi? Parce que c'est un. Vous en souvenez, Philippe, ce qu'il avait dit à Jésus. Montre-nous le Père. Jésus lui dit, regarde-moi. Tu veux voir le Père? Regarde-moi. Moi et le Père, nous sommes un. C'est ça que... Et c'est ainsi que le Seigneur était la conscience partout où il vivait. Les gens, ils voyaient cette façon de se comporter de Jésus. Et les gens, ils se disaient, mais il n'est pas comme nous. Il n'a pas l'autorité que les autres, ils ont. Il se comporte d'une façon. D'ailleurs, pourquoi beaucoup se sont tournés vers Jésus? Mais justement parce qu'il s'est comporté différemment de ce que les autres, ils faisaient. Les gens, ils disaient, on n'a jamais entendu, aime ton prochain. Aime ton ennemi, fais du bien. Voilà, c'était une façon inhabituelle de se comporter. Et Jésus, il était toutes ces choses-là. Et c'est comme ça que nous devons manifester notre propre vie. Est-ce que, je vous le dis souvent, est-ce que nos voisins, ils savent que nous sommes chrétiens? par notre façon de se comporter, par notre façon d'agir, par notre façon de critiquer. Vous savez, une critique, ça sort vite fait. Mais jamais Jésus l'a critiqué. Jamais il a parlé mal de quelqu'un. Et c'est là être un avec le Père. C'est ce qu'il était, Joseph. Hein? Joseph, il était le bien-aimé du Père. Et alors, parce qu'il était le bien-aimé, qu'est-ce qui lui arrivait? Le Père, il lui a donné une tunique écarlate, plein de couleurs. Et il a donné qu'à Joseph, automatiquement, à réaction. Et ici encore, ça, par rapport à Joseph, qu'il était le bien-aimé, nous le sommes aussi le bien-aimé de Dieu, et il lui a fait une tunique. Mais savez-vous que nous aussi, Dieu nous a fait une tunique écarlate? Par exemple, dans Ésaïe 61, 10, voilà ce qu'il nous dit. Il m'a revêtu des vêtements du salut. Il m'a couvert de la robe de justice. Je veux me réjouir à mon Dieu. Eh oui, qu'est-ce que c'est que Dieu il a fait à nos premiers parents, Adam et Ève? La première chose qu'il a fait, c'est quoi? Il les a revêtus de la justice, de ce sacrifice. Et Jésus est notre justice. En tant qu'enfant bien-aimé, notre Père, il désire nous donner le meilleur, comme on a vu tout à l'heure, l'avenir. Il dit, certes, tu auras un avenir heureux. Certes, notre avenir est notre avenir est l'espérance. Notre avenir est déjà tracé. Et ici, Joseph, il est le bien-aimé et il lui a donné un vêtement. Et nous, notre Dieu, il nous a revêtus du salut, il nous a donné un vêtement de justice. Et on voit dans Apocalypse, hein, encore les frères, il a dit ce matin, qu'il y aura le cœur des anges et tous ils vont chanter, ça doit être quelque chose. Juste pour ça, nous devrions accomplir la volonté de Dieu, pour voir ce spectacle. Tous les gens qui entonnent en cœur une louange envers notre Seigneur et notre Dieu. Et c'est ça que nous avons été revêtus de la justice de Jésus-Christ, qui nous a été donnée par Dieu, car c'est Dieu qui accorde le salut par et seulement le sacrifice de Jésus-Christ. Hein, on l'a vu déjà la semaine dernière. Lorsqu'ils ont tué Joseph, et on va le voir par la suite, hein, mais c'est juste pour vous donner une image. Hein, lorsqu'ils ont tué Joseph, ils l'ont vendu, hein, mais pour parler à Jacob, c'était son fils bien-aimé. Ils ont pris sa tunique, ils ont tué un animal et l'ont plongé dans le sang de l'animal. Et ils l'ont montré à Jacob. Il a dit, voici ton fils, il a été tué par un animal. Voici sa tunique. Elle était remplie de sang. Et il y a eu aussi la tunique de Jésus-Christ. Lorsqu'il a été arrêté, on lui a mis une tunique, et sous cette tunique, il a été maltraité, il a été fouetté, il était tout plein de sang. Et cette tunique, comme il nous est dit, il lui a été enlevé, et cette tunique remplie de sang, il a été partagé par des Romains. Mais cette tunique, il a été présenté à Dieu le Père, et il a vu le sang, et il a accepté le sacrifice de Jésus-Christ, et à travers ce sacrifice, nous avons été pardonnés. Vous voyez combien elle est belle l'histoire de Joseph, combien il peut nous ramener à toutes ces vérités magnifiques qui sont dans le Nouveau Testament. Voilà Joseph dans cette robe. Vous ne vous sentez pas juste. Vous ne vous sentez pas juste. Mais revêtez la justice de Jésus-Christ. Elle est là. Elle est à votre disposition. Elle est à notre disposition. La seule chose que nous devons faire, c'est de nous tourner vers lui. C'est la seule chose que nous devons... Mais elle est là. Elle est disponible. Le salut, c'est gratuit. Esaïe nous a dit, venez acheter sans payer. Et c'est exactement ce que Dieu nous demande. Vous vous sentez nu, vous vous sentez pas digne. Mais alors voilà, venez à Jésus-Christ. Il est là, il est prêt à se libérer de lui-même pour que nous puissions être revêtus. Il nous a dit, Paul nous dit, des riches qu'il était, il s'est fait pauvre afin que nous soyons enrichis. Est-ce que vous êtes riche? Si vous avez Jésus dans votre cœur, vous êtes riche. Vous êtes riche. Et il y a aussi, si vous vous sentez faible, miséreux, venez à Jésus. Je l'ai dit ce matin dans l'étude, il y a quelqu'un qui est venu, il m'a dit, je vis constamment dans la tristesse parce que j'ai commis un péché. Je ne vous dis pas le péché, mais il a commis un péché, un grave péché. J'ai dit, mais est-ce que tu l'as confessé? Elle a dit, oui, je l'ai confessé. Mais alors, ma sœur, si tu l'as confessé, Dieu te pardonne. Dieu, il a oublié. Nous sommes destinés à vivre dans la joie, dans la victoire. Pourquoi tu es dans la tristesse et dans la défaite? Si tu as confessé ton péché, Dieu t'a pardonné. Donc, tu n'as plus ce péché. Oublie ce péché. Car si nous rappelons le péché que nous avons fait, notre vie, au lieu d'être une vie de victoire, il va se transformer dans une vie de défaite. Mais Dieu ne va pas m'écouter parce que j'ai commis des péchés, beaucoup de péchés. Il ne va pas m'écouter. Il ne va pas me les donner. Je suis un misérable. Non, si tu as confessé Dieu, il te pardonne. Et Dieu, il est prêt à te redonner toutes ces bénédictions dont nous avons besoin. Hein? Pourquoi aller vers Jésus? Parce que Jésus, il a tout. Il a tout ce que nous n'avons pas. Et aussi, il a tout accompli, toutes les choses que nous ne pouvions pas accomplir. Nous sauver nous-mêmes, nous ne pouvons pas. Ni par les œuvres, et ni quelqu'un il a utilisé cette image pour être sauvé. Quelqu'un, celui qui essaye d'être sauvé par lui-même, c'est comme s'il prend les lacets de la chaussure et il essaie de se soulever. C'est impossible. On ne peut pas. Le seul qui peut nous relever, c'est Jésus. C'est le seul. Pourquoi? Parce que tout ce que nous n'avons pas, il l'a. On a besoin de quelque chose. Vendredi, on a dit, hein, demandez, il vous sera donné. Cherchez, et vous trouverez. Hein? Toutes ces choses. Pourquoi? Parce que lui, il a tout. Donc, à chacun de nous. Donc, il faut tourner les yeux vers le Jésus et pas les avoir sur ce monde. Car si nous avons les yeux tournés sur le monde, nous allons nous perdre. Nous allons nous perdre. Un peu comme Lot, il nous en a parlé, le frère Tim, hein, pour ceux qui sont venus pour les réunions. Hein. Lot, qu'il a vu, Abraham, il a dit, on a trop de possessions, bon, écoute, il faut se séparer. Hein. Choisis. Hein. Normalement, c'était Abraham, c'était le plus vieux à choisir. Mais il a dit, choisis. Je prendrai ce que toi tu ne veux pas. Alors il a regardé et il a vu les plaines de Sodome. Ah, tout vert et tout ça. Alors il dit, je prends là. Et de l'autre côté, il n'y avait rien. Mais Abraham, il a dit, vas-y, moi je prends de l'autre côté. Qui c'est qui a eu plus? Mais c'est Abraham. Pourquoi? Parce qu'il avait le Seigneur. L'autre, il a choisi le monde, la beauté, les bonnes choses à posséder. Mais Abraham, il a dit, l'Éternel est mon bouclier. Et c'est ce qu'il a reçu. Hein? Hein? Voilà ce que nous devons faire à travers l'exemple de Joseph. Oui, dire au Seigneur, prends possession de ma vie. Prends tout, Seigneur. Hein? C'est cantique qu'on a, n'est-ce pas? Prends tout, Seigneur. Hein? Et encore une fois, vous devez accepter pour la première fois. Ou si vous l'avez déjà fait ou vous ne l'avez pas fait encore. Il faut le faire. Acceptez le Seigneur si vous voulez que votre vie change. Parce que sinon, ça va être toujours ce petit train-train. On s'aperçoit tous qu'on ne s'en sort pas, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce qu'on n'a pas d'avenir. Si vous regardez le monde, quel est l'avenir? Il y a beaucoup de jeunes qui disent « Ah, mais moi, je n'aurai pas de retraite. » Donc, imaginez-vous quel avenir vous pouvez avoir. Mais avec Dieu, il nous dit « J'ai préparé pour toi un avenir. Fais-moi confiance. Tourne-toi. » Et pour cela, une seule chose à faire, c'est se revêtir de Jésus-Christ. Voilà, que le Seigneur nous aide à mettre en pratique tous ces enseignements sur Joseph. Et si Dieu veut, on continuera la semaine prochaine. Amen.